Brume 90.7, nouvel entretien Confluence. Nous sommes en direct pour parler de cinéma comme chaque mercredi avec messieurs Hakim Fdaouche et Raphaël Lorenzo.
Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir à tous.
Alors aujourd'hui, comme prévu, nous allons revenir un petit peu sur le festival Lumière 2014 qui vient de s'achever.
Oui. Alors bon, on avait prédit l'année dernière que ça allait être compliqué de faire aussi bien que la 5e édition, qui, on le rappelle une nouvelle fois, a été extraordinaire. Alors cette année, elle n'a pas été du même niveau, mais elle a quand même été de très belle qualité, hein, ne serait-ce que par sa programmation diverse et variée. On a eu du film asiatique, la saga Musashi, on a eu de l'anime japonais avec Miyazaki.
Les splendeurs françaises avec
On a eu des films muets, donc en l'occurrence deux films de Murnau, Le Dernier des Hommes et Nosferatu. On a eu également un film de Raoul Walsh, muet, Le Voleur de Bagdad. On a eu du cinéma populaire via les films Coluche.
Des séances mythiques aussi avec Alien, Die Hard, Rambo.
Voilà, et SOS Fantôme. On a eu le cinéma hollywoodien de l'âge d'or avec les films d'Idao Lupino, on a eu les western spaghetti, plus les films d'Almodovar, des films espagnols avec une carte blanche, des films espagnols qu'on avait rarement vus, même jamais vus en France, et des classiques hollywoodiens qui l'ont influencé dans ces films. Et au final, ça donne une programmation vraiment riche, diverse et variée. Et voilà, c'est ce qu'on demande au Festival Lumière. Et même si c'est moins bon que l'année dernière, ça reste quand même une très bonne édition.
Après, moi je mitigerai un petit peu ton avis parce que personnellement, en fait, j'ai pas forcément trouvé que c'était moins bon que l'année dernière. En fait, c'est juste que j'ai trouvé que il y avait pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses, quoi. C'est-à-dire que moi, qui suis pas spécialement sensible à Tarantino, par exemple, c'est vrai que l'année dernière, il y avait aussi des choses qui m'avaient un petit peu déçu. Alors, au niveau de l'énergie, c'est clair qu'elle était là, mais comme on l'a dit et redit souvent, c'est aussi un petit peu le seul réalisateur comme ça, un peu rockstar, quoi. Donc ça, de toute façon, c'est sûr que ça pourra pas être la même chose. Après, moi, j'ai trouvé quand même qu'au niveau programmation, c'était plus intéressant cette année. J'ai trouvé que la soirée du prix Lumière était bien supérieure cette année au niveau de la qualité musicale et surtout au niveau de l'intensité. J'ai vu beaucoup plus de gens la larme à l'œil vendredi que l'année dernière. Voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était en fait deux festivals complètement différents, en fait, presque difficiles à comparer.
Faudra plutôt comparer, je pense, avec les autres éditions du Festival Lumière. C'est-à-dire que Tarantino était vraiment à part, on peut dire hors série, avec une vraie star hein, qui était Quentin Tarantino. Faudrait plus le comparer.
Qui a été là toute la semaine aussi.
Oui, en plus, voilà.
Et qui venait tous les soirs boire des coups avec le public. On pouvait l'approcher, on pouvait discuter avec lui.
Mais arrêtons de parler de cette année-là, parce que moi je trouve qu'elle était vraiment à part. Quoi. Enfin, il faudrait mieux revenir à ce qu'il y a eu avant. Quoi. Ken Loach, Depardieu.
Non, mais c'est une édition. La cinquième édition est une édition.
Et on a retrouvé le goût de ce qu'il y avait au début, finalement. Et moi, le seul regret que je ferais vraiment à la programmation, moi je l'ai trouvé extraordinaire. C'est peut-être l'une des meilleures programmations qu'on a eues depuis le début. Hein. Tu as très bien résumé la situation, mais des films pour tous les goûts. Quoi. Et non, voilà, moi ce qui m'a plus déplu, c'est plus le côté répétitif des invités au fond qui était un peu je m'en foutisse. Moi, les présentations, on en parlait avec Amaury un petit peu hors antenne, ouais. Les présentations étaient un petit peu à côté. Ou bien pas préparé quoi. C'est un peu dommage parce que les films étaient très très beaux dans des restaurations magnifiques, souvent du 4K ou des très très belles copies en 35 mm, et c'est peut-être dommage, mais c'est vraiment un bémol de cinéphile hein, je fais un peu mon tatillon hein, que les présentations étaient peut-être pas à la hauteur quoi.
Bah après, je trouvais aussi, encore une fois, que ça dépendait un petit peu des films. Moi, c'est vrai que j'ai vu des très belles présentations, quoi, d'Anglade parlant de Sauté, qui était vraiment
très, très bien.
D'Agnès Soral, qui parlait de Ciao Pantin et de Coluche, c'était vraiment chouette également. Vincent Pérez, on l'entendra un peu plus tard, qui parle de Capra. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Après, moi, j'ai fait moins d'éditions que vous. C'est vrai que j'avais fait la première à l'époque. Ensuite, j'étais plus là pendant quelques années. J'ai fait donc l'année dernière et cette année. Donc j'ai un angle moins grand que le vôtre là-dessus. Mais voilà, moi j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'énergie, effectivement, que, voilà, par rapport à l'année dernière. Et que ça serait bien un renouvellement des invités. Mais j'imagine que c'est peut-être pas non plus si simple que
oui,
ça.
Oui,
quoi.
Bah on a eu l'exemple avec justement Antonio Banderas et Penelope Cruz pour le Grand Prix. Hein. Antonio Banderas était en tournage en Europe, je crois, en Hollande.
En Espagne.
En Espagne
ouais.
Et Penelope Cruz, alors ça, on a une petite théorie avec Raphaël. Hein. Apparemment, elle était dès le début, dès cet été, on savait que Penelope Cruz ne pouvait pas venir. Quelques heures, quelques jours avant le prix, on a dit qu'elle était en tournage à l'autre bout du monde. Bon, elle a laissé un petit message, tournée avec son iPhone.
C'était
dans une
Xavier
chambre
d'hôtel. Dolan qui l'avait réalisé.
Voilà, on aurait dit un film de Xavier Dolan, alors que d'Antonio Banderas, lui, il était sur son set de tournage.
Des beaux décors, des beaux costumes.
Voilà, et puis, du coup, c'est un peu la grande excuse. Comme, voilà, on aurait bien voulu avoir Victoria Abril, hein, Victoria Abril qui est une francophone qui vit à Paris.
Après, le truc, c'est qu'on ne sait pas aussi les rapports qu'ont Almodovar avec certains de ses anciens acteurs ou actrices. Ouais. Alors, pas pour Penélope Cruz ni Banderas, mais c'est vrai qu'il y a aussi, tu vois, il y a des gens à qui il a tourné il y a 25 ans, c'est pas dit qu'ils soient restés super, super proches.
En tout cas, moi, j'ai trouvé que le prix Lumière était une super cérémonie, quoi. Il y avait des très beaux morceaux chantés, il y a eu des très bons chanteurs de flamenco espagnol.
Parce que le ton était donné sur la musique. Hein.
La lettre était très belle, quoi.
La lettre était magnifique.
Il y a peu de réalisateurs qui ont une qualité d'écriture de texte comme ça, en type lettre ou nouvelle.
Une lettre à sa mère.
C'était vraiment beau, quoi.
Ouais, une lettre à sa mère qu'il avait publiée dans El País.
Qui était repris après par un journal de New York.
Voilà, donc c'était Dolan qui l'a récité, Tahar Rahim et Guillaume Gayenne. Les trois étaient très bien.
D'ailleurs, on voyait bien quand même, moi qui ne suis pas un grand admirateur de Gallienne, mais on sentait quand même que c'était lui le plus à l'aise sur les lectures. On sent que c'est son truc, comédie française, et puis radio, l'habitude des vraies lectures comme ça, parce que c'est vrai qu'il a été vraiment très très bon sur la troisième partie.
Et du coup, Almodovar a fait un très très beau discours qui m'a profondément touché. Là où Tarantino l'an passé, c'est ça qui m'a plu, c'est aussi un peu la complémentarité des deux, quoi. Tarantino évoquait qu'il n'avait pas de famille, sa famille c'est le cinéma, alors qu'Almodovar c'est l'inverse. Lui. Enfin, c'est par la famille qu'il a eu le cinéma, quoi. Et donc il a évoqué sa mère. C'était un très beau discours sur sa mère. Il a dit finalement que la couleur dans ses films, son exubérance, sa folie, en fait, venait du passé de sa mère, du passé noir de sa mère, justement, de ses vêtements.
Et que c'était la revanche de sa mère, un petit revanche, peu, lui. Ouais.
Et c'est, se trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, au fond. Tu es acclamé par 3000 personnes et tu penses qu'il y a une seule personne, ta mère, quoi. Ouais. Je trouve ça magnifique.
Mais c'est vrai que c'est la première fois, enfin, ça avait déjà commencé l'année dernière et ça se poursuit cette année. C'est vraiment la deuxième fois en 6 ans, on a vraiment l'impression qu'un metteur en scène est vraiment content d'avoir ce prix Lumière. Je ne dis pas que Ken Loach, Clint Eastwood, Clint Sorman, Gérard s'en foutaient un petit peu. Mais là, on sentait, je pense que c'est un gagneur, Almodovar. Et tout ce qui a été dit sur le fait qu'il en a voulu des années à Thierry Frémaux de ne pas avoir la Palme d'Or, qu'il soit parti bredouille de Volver en 2006 avec simplement le prix du scénario, là, on sentait qu'il était vraiment content d'avoir ce prix Lumière, qu'il en rêvait, et il en a vraiment profité. Hein. Et ça se sentait déjà l'année dernière avec Tarantino, là, ça se sent encore beaucoup plus avec Almodovar, qui vraiment n'est pas venu en tout, il est venu. Bon, il est peut-être pas venu
moins reconnu que Tarantino quand même.
Comment ?
Il est quand même beaucoup moins reconnu au niveau international que Tarantino.
C'est pas le même public. Hein. Là, on avait un public beaucoup plus jeune l'année dernière.
Tarantino
là, on
était entendu. Consacré dès le début avec Parken. Jamais. Almodovar n'a jamais été reconnu avec lui.
Bah après, le truc aussi, c'est que Almodovar, au début, c'est quand même un milieu ultra underground, quoi. C'est quand même le milieu des travestis, tu vois, du punk rock, des militants et des mauvais garçons un peu de Madrid. Enfin, c'est quand même, moi, je le comparerais plus à Jim Jarmusch aux États-Unis, par exemple, même s'ils n'ont pas exactement le même parcours, mais dans ce truc, tu vois, de gens qui viennent vraiment des squats,
et
des punks, etc.
Il s'est fait révéler par Ken parce qu'il a quand même la caméra d'or avec Stranger Than Paradise. Alors que Almodovar, du moins là où il a vraiment exposé, c'est en 88 avec Femme au bord de la crise de nerfs, où là il expose à Hollywood, hein. Au niveau international, il y a à l'époque un remake qui se prépare qui finalement se fera jamais. Et en français, pareil, c'est vraiment à l'époque, 88, on commence à découvrir après ce film-là tous ses autres films. Donc et puis Matador, La Haute du Désir.
Justement, vous avez pu voir quand même un petit peu des films d'Almodovar cette semaine
j'en ai vu quelques-uns. Moi, j'ai vu Carnet Tremula, donc En chair et en os. Avec toute la bande habituelle, hein, c'est-à-dire il y a Bardem qui est dedans.
Il y a Penélope Cruz qui fait une petite apparition au début.
Oui, elle accouche au début du film. C'est un film qui est un très bon mélodrame teinté de, comment on pourrait dire, d'atmosphère un peu policière, de quiproquo amoureux. C'est très très bien écrit, c'est très très drôle, c'est extrêmement coloré avec des idées de mise en scène magnifiques. Et c'est, je trouve, un film brillant au niveau cinématographique, puisque j'ai l'impression qu'Almodovar fait un film entier sur la notion d'ellipse. C'est un truc qui est vraiment, je pense, profond dans son cinéma. Le film est à chaque fois coupé par des moments. On retrouve ça d'ailleurs dans On parle avec elle, d'ailleurs, ou dans d'autres films, Tout sur ma mère aussi. Et je trouve que c'est un film qui est brillant vis-à-vis de ça, quoi. Enfin, il réfléchit vraiment à la définition de termes cinématographiques.
Après, j'ai remarqué qu'en fait, il y avait un genre qui était plus ou moins récurrent dans tous ces films, c'est le genre policier. Au final, La plupart de ces intrigues sont toujours autour d'un meurtre. D'un mélo et d'un meurtre. Ouais. Là, le désir, c'est un petit peu ça aussi. Hein. l'histoire d'un auteur, réalisateur homosexuel dont un de ses confrères va tomber amoureux et par jalousie va tuer son amant. Et donc tout tourne autour d'un crime. C'est pareil pour Volver. Hein. Le point de départ,
ou,
c'est.
Ou un mystère.
Ou régler des comptes aussi. Quoi. Ouais, ouais, voilà. Il y a aussi beaucoup ça dans tout sur ma mère. Moi, c'est vrai que j'ai revu celui-là avec un grand plaisir parce qu'il est vraiment génial. Moi, c'est celui quand même que je mets au-dessus du lot. Tout sur ma mère, je le trouve extraordinaire.
Parle avec elle, film. C'est pas mal aussi. Moi, je l'ai vu.
Parle avec elle, c'est bien.
C'est juste après le préféré des fans de Almodovar.
Et la fameuse séquence de la séquence d'amour justement entre la fille qui est dans le coma et le l'infirmier qui la traite là.
Javier Camara.
Voilà. Qui du coup. Comment montrer une scène d'amour entre une personne dans le coma et une personne consentant ? Je veux dire, voilà. Et donc, du coup, Almodovar a cette idée géniale d'inclure une référence, à savoir l'homme qui rétrécit, au sein d'un film muet. Et voilà. Et il montre une scène érotique, je pense, une des plus belles scènes érotiques du cinéma. Originale, poétique. Tu vois de quoi je parle ? Tu l'as vu, le film ?
Oui, non, j'étais avec toi.
C'est incroyable. Comment il a réussi à citer un film, à faire référence à une période clé du cinéma, en l'occurrence le cinéma muet, où on pouvait tout exprimer par des images, pas par de la parole. Et là, il arrive à faire pareil. Comment montrer une belle histoire d'amour avec seulement des images et pas de paroles, que des gestes.
C'est ça, Almodovar. Hein. C'est une sens du cadre, une sens du rythme, une sens des couleurs, une sens du cinéma, tout simplement. Et
puis, comme c'était bien dit, j'ai trouvé pour le coup dans le petit clip qu'on a vu toute la semaine, il est aussi récompensé pour sa fidélité au cinéma, quoi. Il y a ce côté aussi où on sent qu'à un moment donné, il rend hommage à plein de réalisateurs, à plein de films, en fait, dans ses propres films. Et j'ai trouvé aussi courageux le fait qu'il nomme assez facilement quel film l'a inspiré pour un autre film. Et on en parlait avec notamment Christophe Chabert du Petit Bulletin l'autre jour pour un film des années 80, là, justement un peu underground et tout ça, où on retrouve dans ce film tout Almodovar, et c'est quand même courageux d'arriver et de dire bah, moi, ouais, j'ai vu ce film, je m'en inspire. Enfin voilà, il n'y a pas de faux semblants en fait. J'aime ça chez lui.
Et contrairement à Tarantino, où c'est des références trop flagrantes, là, elles sont plus ou moins maquillées, les références dans les films d'Almodovar. C'est pas si flagrant ça, du moins c'est pas aussi flagrant qu'un temps comme Tarantino ou même non, Scorsese il fait pas trop.
Mais je pense que c'est des références un peu plus obscures quand même que chez Tarantino. Tarantino c'est vraiment de la pop culture, quoi, du western, etc. Almodovar c'est plus dans du mélodrame, du Hitchcock, etc. Là, l'homme qui rétrécit de Jack Arnold, du
fantastique, hein, les yeux sans visage.
Et ce qui est bien, c'est que au fond c'est le lien entre Tarantino et Almodovar, c'est cette cinéphilie là. C'est un diptyque.
Ils sont très amis. Hein.
Ouais, je sais, ouais, ils sont très amis. Et
il y a un côté rock quand même qui ressort, quoi, chez eux, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas la musique rock, mais le symbole un petit peu.
L'énergie, en tout cas, quoi. Et qui sait, pourquoi pas avec Scorsese, qui sait l'an prochain, on aura une trilogie des trois plus grands metteurs en scène cinéphiles au monde, quoi.
Oui.
Bah oui. C'est les trois plus grands, Tarantino, Scorsese et Almodovar.
Et présent, on parle de l'Almodovar réalisateur, mais ça reste quand même un excellent scénariste. Et pour la petite anecdote, donc je l'ai dit, il a eu le prix du scénario en 2006 pour Volver. Il a eu également, et ça c'est la seule et unique fois où c'est arrivé dans l'histoire des Oscars, il a eu l'Oscar du meilleur scénario pour Parle avec elle. Et c'est un prix qui est donné à un film non américain, non anglophone, parlé et écrit en espagnol. Et ça, c'est unique dans l'histoire des Oscars. C'est vraiment le seul film étranger qui a pu avoir l'Oscar du meilleur scénario.
Et il y a un truc aussi qui était très touchant, je trouve. Tu étais à la clôture. Je n'ai pas suivi, mais j'ai vu les tweets qu'il y avait grâce au Festival Lumière. Et apparemment, Almodovar aurait déclaré qu'il attendait en fait, depuis 30 ans ce que Lyon lui a apporté, quoi, la reconnaissance vraiment de ses pairs. Quoi.
Ah oui, on l'entendra dans la troisième partie, là où j'ai fait un petit montage avec la conférence de presse qu'il a pu donner et en même temps ses discours au prix et à la clôture. Et c'est vrai que je pense qu'il a été vraiment touché, mais pour le coup, comme l'a été Tarantino l'année dernière, je pense qu'il y a vraiment cette reconnaissance du public qui est aussi la plus belle. Et je pense que c'était, même si c'est quelqu'un, je pense qu'il aimerait bien avoir quelque chose à Cannes un jour ou ailleurs, ou peut-être encore un Oscar, j'en sais rien. Mais on sent quand même que ce qui compte pour ces gens-là, c'est à un moment donné d'être aimé par le public. Enfin, en tout cas, de pouvoir échanger leur création avec le public. Et moi, pour finir vraiment sur Almodovar, quand même, ce réalisateur, même si moi, je ne suis pas forcément fan de tous ses films, ni de tous les moments qu'il va y avoir dans ses film, mais quand même, il arrive à mêler aussi ce truc un peu policier, comme tu disais, sombre, avec des moments quand même super marrants, super loufoques, et puis à casser des barrières une nouvelle fois, quoi. À parler des travelots, à parler des pauvres, mais aussi des riches, des milieux ultra-bourgeois des moments, les relations hétéros comme les relations homo, les relations, comme tu disais, Raphaël, aussi... père, et, mère et fils, famille, bien sûr, hein. Famille, enfin, il y a tout ça, quoi. Et c'est vraiment tout ce qu'il arrive à transmettre que moi, je trouve qu'on peut lui tirer un coup de chapeau pour ça, quoi.
Tout en étant aussi profondément espagnol et ancré dans la culture espagnole, issue de la Movida, issue d'une histoire post-franco aussi. C'est ça aussi le mot de voir. C'est plus que le cinéma.
C'est vrai, il y a aussi ce truc post-franco,
pour le coup, effectivement. Heureusement qu'il y a eu Franco, enfin, malheureusement, non, pour beaucoup de victimes. Mais
pour leur culture, oui, en tout cas.
Pour la culture, et c'est comme partout. S'il n'y aurait pas eu Pétain, il n'y aurait pas eu le cinéma de la qualité, donc il n'y aurait pas eu la nouvelle vague et les films de Godard et de Truffaut. Comme beaucoup.
Ah, vous n'allez pas nous faire la vieille diatribe, une bonne guerre, monsieur Daouche, quand même.
Je ne suis pas demain, je ne sais pas ce qui se passerait s'il y aurait une troisième guerre mondiale, mais voilà, il n'y aurait pas eu Franco, il n'y aurait pas eu Movida, il n'y aurait pas eu.
On attend d'ailleurs votre biopic sur le directeur de Total, là, j'imagine que ça a dû vous inspirer.
Xavier Dolan, qui a déjà fait un film, une petite bande-annonce.
Bon, écoutez, messieurs, on va se mettre un petit morceau de musique et on se retrouve après dans une deuxième partie pour parler de tout ce qu'il y a eu d'autre aussi dans le festival, parce que c'était bien sûr le prix Lumière Almodovar, mais il y avait pas mal d'autres gens aussi, Sauté, Capra et d'autres, et du coup on va faire un petit peu votre best-of de tout ça.
The foxes and the wolves go.
Brume 90.7 direct Confluence Cinéma. Et du coup, on va revenir sur ce Festival Lumière 2014 et voilà tout le reste de la programmation hors Almodovar. Donc, bien entendu, Capra, Claude Sautet et Coluche et d'autres.
Et Ted Kotcheff.
Ted Kotcheff,
qui a été une petite révélation de ce festival, car comme le disait très, très bien Thierry Frémaux lors de la toute première conférence de presse en juin, il disait qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui sont moins connus que les films qu'ils ont réalisés. Et Ted Kotcheff fait partie de ces metteurs en scène, car quand on dit Ted Kotcheff, ça ne me dit rien. Quand on dit Rambo, ah oui, effectivement. Et c'est effectivement le réalisateur de Rambo, réalisateur canadien qui a un peu travaillé un peu partout aux États-Unis, en Australie.
En France,
oui.
Il a fait le film La Grande Cuisine avec Jean Rochefort.
Avec Jean Rochefort et en Angleterre. Et alors, il y avait trois films de lui qui étaient programmés. Donc, Wake in Fright, donc Réveil dans la Terreur en français. Il y avait également...
Rambo, il y avait Fearless, son dernier court-métrage.
Oui, voilà. Et le d'autres films...
Un film avec Jeff Bridges... Richard Dreyfuss, je vais y arriver.
Richard Dreyfuss.
Un film parcours initiatique de Lenny Kravitz, je crois.
Voilà.
Ouais, que je n'ai pas vu, perso. J'ai vu les autres, mais pas celui-là.
Tu n'as pas vu Walking Fright?
Oui, je l'ai vu, Réveil dans la Terreur.
Ah, c'est génial, ça.
Oui, c'est vraiment une bonne série B, très appréciée par ceux qui l'ont vu. Martin Scorsese avait fait un super papier à l'époque, parce que je crois que c'est lui qui l'avait aidé à la restauration du film avec sa fondation. Il était présenté à Cannes, donc il s'en est vanté justement Ted Kotcheff d'être le seul cinéaste avec Luchino Visconti, il me semble, pour Le Guépard, d'avoir été sélectionné deux fois à Cannes. Oui, il a évoqué ça avec Thierry Frémaux. Une fois sélectionné à Cannes à l'époque et re-sélectionné aujourd'hui dans Cannes Classic.
Ah, d'accord.
Apparemment.
Enfin, mais c'est vrai que c'était un personnage intéressant. Quoi. J'ai fait la soirée Rambo, là. Et c'est vrai que la manière dont il parlait aussi de l'histoire de son film et de pourquoi il l'avait fait, ça amenait un autre éclairage, en fait, sur ce film.
Par contre, le traducteur, fois connu. Philippe Garnier, était un peu au
fait. T'es un peu fatigué.
Mais Waking Fright, je ne sais pas si vous en avez parlé.
On en a évoqué un petit peu, oui, de fait.
C'est plutôt pas mal. Très rapidement, c'est l'histoire d'un prof d'école qui, disons-le très bien, se fait chier dans le petit patelin australien où il se trouve, dans un lieu très désertique. Et c'est la fin de l'année, c'est Noël, en plein soleil, il n'y a pas de neige parce qu'on est en Australie. Et donc, du coup, il doit rentrer chez lui à Sydney. Et il manque son avion. Et pourquoi? Parce qu'il a passé la soirée à jouer, à boire, à perdre tout son argent. Et à partir de ce moment-là, il va rencontrer la route ou le chemin d'un médecin, mais qui travaille clandestinement et qui vit de façon assez marginale dans une sorte de cabane en tôle où il passe son temps à boire, à picoler et à partir à la chasse au kangourou. Et ce personnage est interprété par Donald Pleasance. Pleasance. Et ça dépeint un monde australien assez... il nous montre les Australiens comme des bouseux, comme les Texans américains qu'on a pu voir dans certains films d'horreur.
Les rednecks, clairement.
Et Ted Kotcheff, dans son analyse à l'issue de la projection qui a eu lieu le deuxième jour au Comédia, racontait plein d'anecdotes. Il racontait que lors d'une des premières projections qui a eu lieu à Melbourne ou à Sydney, à un moment donné, il y a un Australien qui s'est levé, qui a pointé du doigt l'écran et a dit « Ce n'est pas nous, ça, il faut se rembourser. » Et là, il y a une personne qui se lève et dit « Tais-toi, ça, c'est vraiment nous, on est vraiment comme ça. » Et voilà. Et ça annonce un petit peu, je ne sais pas si tu as eu ce sentiment-là, Raphaël, mais ça annonce, quelques années auparavant, justement, la mode des rednecks, des tueurs, des gars un peu glauques. Massacre à Toronto, entre autres, même si là, il n'est pas question de tuer en série.
Oui.
Mais ça va inspirer un autre film, 30 ans plus tard, un autre film australien, qui met en scène un tueur en série que je trouve vachement bien, c'est Wolf Creep.
Oui, par exemple, oui, on pense à ça, ou même Rob Zombie aussi aujourd'hui.
Oui.
Dans le cinéma américain, on sent. Mmh. Par contre, c'est vrai que ce n'est pas un film d'horreur. Hein.
Non, c'est pas un film d'horreur.
Vu le titre, on peut penser que c'en est un, mais c'est vraiment quelque chose de cauchemardesque, de très angoissant, certes, mais c'est vraiment un film sur presque sociétal quand même. On parle beaucoup de la société australienne de l'époque, mais voilà, on suit le parcours d'un personnage initiatique. Quoi. Mais c'était vraiment une découverte.
Alors, on en a parlé la semaine dernière, donc il y avait également Claude Sautet qui était mis à l'honneur. Ça,
c'était une très
belle découverte ou redécouverte. On peut en dire un mot. Raphaël, tu as vu pas mal de ces films?
J'ai vu quoi? J'ai vu Vincent, François, Paul et les autres. J'ai vu Le Mauvais Fils, Une Histoire Simple, Les Choses de la Vie. César et Rosalie, tu l'as vu, toi,
oui.
Par contre, j'ai pas eu la chance de le voir.
Et j'ai vu Max et les Ferrailleurs.
Mado aussi, j'ai vu Mado. Donc, à nous deux, on en a vu quand même pas mal. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui s'est fait à l'époque rinter par la critique, par les gens de la Nouvelle Vague.
Quoique, apparemment, François Truffaut. a notamment félicité Claude Sautet pour Max et les Ferrailleurs qui, au passage,
mais après, hein, c'est bien après.
Non, non, mais à la sortie.
Non, mais je parle, je veux dire, après. Le commencement de sa carrière. Il commençait par des polars à la base.
Deux polars avec une aventure.
Risque, L'arme à gauche.
Qui ont été de relatifs échecs. Et donc, du coup, il a décidé de changer son fusil d'épaule.
Ouais, c'est les choses de la vie qui est vraiment le tournant de sa carrière. Hein, qui est plus des films avec des grands sentiments, des hommes qui sont des hommes, comme disait très très bien Neil Thompson, des femmes qui sont des femmes. Il avait un idéal féminin qui était donc Romy Schneider. Il veut montrer la grâce féminine.
Il y a pire.
Ah oui, il y a pire. Ouais, oui.
Et puis il lui rend hommage aussi dans un film où c'est elle qui prend place au premier rang et qui est un petit peu le pendant féminin finalement de Vincent, François, Paul et les autres.
Une histoire simple, ouais.
Et du coup, c'est vrai que là aussi, ça a permis un petit peu de faire taire la critique qui commençait à le dessiner comme quelqu'un de misogyne, exclusivement intéressé par l'émergence des hommes dans la vie, etc.
L'amitié virile.
Et l'amitié virile et tout ça. Et du coup, c'est aussi un film très intéressant. Mais c'est vrai que Sautet, on le reconnaît quand même plus, enfin moi en tout cas, comme un grand réalisateur à partir du moment où il fait les choses de la vie, Vincent, François, Paul et les autres. Il est quand même bien meilleur là-dedans. Quoi. On sent qu'il a quelque chose comme ça du film choral. On en parlait aussi la semaine dernière, comparé à des films actuels sur des bandes d'amis, enfin il y a rien à voir, il y a quand même.
Disons que c'est pas des trentenaires, voilà, qui ont des problèmes dans le.
Aussi, ils ont des problèmes.
Ils ont des problèmes, mais c'est la vie. Ils parlent vraiment de la vie, quoi.
Oui, mais c'est des vrais problèmes, quoi. Je veux dire, c'est des problèmes d'argent, des problèmes
de couple,
des problèmes de cœur, des problèmes de couple. Et ce qui gèle, c'est aussi, enfin aujourd'hui de voir ça, c'est comme le témoignage d'une époque. Enfin quand on les voit, ils clopent, ils boivent, ils mangent, et c'est vraiment la France de l'époque aussi.
Giscardienne.
Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Mais par contre, c'est vrai que Claude Sautet, moi, je l'ai découvert Claude Sautet à travers deux films durant ce festival-là, et je vais prolonger parce qu'il y a deux, trois films qui sont reprojetés en rattrapage à l'Institut Lumière, et ça m'a incité à louer quelques DVD. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de patte Sautet dans la mise en scène, contrairement à d'autres réalisateurs de la Nouvelle Vague comme Truffaut, ou de par l'image, ou Godard, de par la grammaire mathématique, on peut identifier très rapidement un sauté. Alors, où se fait.
Ah, il y a quand même un petit truc du personnage, tu vois, voilà. Quarantenaire, alors, montant, par exemple, que ça soit dans Garçon ou dans Vincent, François, Paul et les autres.
Oui, alors, parce que je dis, finalement, la marque sauté.
Piccoli. Hein.
Alors, la marque sauté, c'est justement les acteurs qu'il emploie pour ses films. Quand on voit un film avec Schneider, Piccoli, Montand, tu dis pas « Ah, c'est un film de avec Montand, Piccoli, Schneider », tu dis « Ah, c'est un film de Claude Sautet ». Parce que tu as ces trois acteurs fétiches qui vont finalement jouer à nouveau le couple.
Il y a quand même des idées de mise en scène assez brillantes. Enfin, dans Les choses de la vie, l'accident de voiture qui est filmé sous tous les angles, qui est donc l'idée centrale du film, qui est filmé sous tous les angles, à différentes vitesses, etc., en flashback et en flash-forward. Enfin, il y a des idées super. Ou dans Nelly et Monsieur Arnaud, qui est un film essentiellement basé sur les gros plans, ou du moins les plans poitrine, t'as, au moment en fait, où tu as une séparation entre donc, Michel Serrault et Emmanuel Béart, le seul plan large du film, c'est à ce moment précis.
Oui, mais c'est pas une marque de fabrique très flagrante, je veux dire. Enfin,
mais c'est assez brillant. Du moins que Sautet, c'est vraiment le cinéma un peu classique, c'est-à-dire il ne veut pas briller par sa mise en scène. C'est vraiment c'est l'histoire qui compte avant tout.
Puis son personnage, je veux dire, son personnage, l'écriture des dialogues, voilà, etc., il y a quand même une petite patte, quoi.
Oui,
il y a quand même quelque chose. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on suit Sautet tout au long de sa vie, voilà, que ce soit chez Monsieur Arnaud, que ce soit chez Montand, même dans Garçon. Enfin, voilà. Après, il écrivait beaucoup, lui, sur les tournages de ses films, quand il était en train de tourner un film. Il écrivait souvent le suivant à ce moment-là, en pensant aussi à un acteur, etc. Donc, c'est vrai ce que tu dis aussi à Kim, ce truc où il était d'abord, je pense, intéressé par des acteurs et des actrices et qui construisait après, quoi. Enfin voilà, mais en tout cas, on vous invite à revoir des Claude Sautet parce qu'il y a vraiment pas mal de belles choses et aussi des choses assez différentes finalement pour tous les goûts. Alors pour rester dans un petit air français, juste un mot quand même, parce que bien sûr, je suis pas le seul, mais c'est quelqu'un que j'admire et que j'adore particulièrement, c'est Coluche.
Évidemment.
Et c'est vrai que de le revoir dans des films, c'était quand même un grand plaisir. Et notamment pour moi dans Ciao Pantin, quoi, qui est quand même, pour le coup, un polar génial et qui est vraiment très beau film. Quoi.
Au niveau du scénar, si tu évacues un peu le scénario, il n'y a rien d'exceptionnel. Moi, je le voyais pour la première fois.
Il n'y a rien d'exceptionnel, il y a juste Coluche. Quoi.
Ah bah, oui, bah, c'est ce que je veux dire. Voilà,
c'est Coluche dans ce rôle-là où on ne l'attend pas du tout. Quoi.
C'est ça, je veux dire, quand tu parles de Joe Pantin, c'est surtout le Coluche que tu veux dire.
Il y a aussi la musique de Charlie Couture, les décors d'Alexandre Trauner.
Ouais. Bah, oui, bah, je dis quand tu extrais le scénario, quand tu prends le scénario, c'est quelque chose que tu as vu 10 000 fois au milieu des années 80. Je veux dire que tu as vu dans les 70 avec les Charles Bronson et tout ça. Bon, je ne vais pas dévoiler le final du film.
Non, c'est plus Taxi Driver pour le coup.
Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que quand tu vois Bourvil-Ladan. Bourvil, pour moi, c'était la cuisse, c'était le gars avec...
Non, Coluche, pardon.
Avec sa coupe bizarroïde de traviole, sa salopette, c'était l'inspecteur la bavure. Pour moi, je n'ai jamais vu Coluche comme ça. En plus, je me demande s'il avait vraiment les yeux verts comme ça ou s'il a mis des lentilles.
Non, il y a une raison pour ça. La raison, en fait, c'est qu'il fumait des pétards. Oui, en dehors des prises, Claude Berrien n'était pas un cœur. Il dit, t'inquiète pas, ma poule, laisse-moi 5 minutes. Il s'enfermait dans sa loge, il fumait un pétard énorme et il arrivait avec ses yeux déglingués. Quoi. C'est véridique. Hein, ça, c'est,
non, puis Berrien moi, je trouve vraiment que c'est un bon film parce qu'après, le truc, de, oui, c'est pas,
décor,
c'est pas hyper innovant, mais en même temps, tu vois, moi, je lis des polars qui vont des années 30 jusqu'aux années 2010. Enfin, il n'y a pas d'invention du polar. Enfin, je veux dire, c'est quand même souvent les mêmes choses, de toute façon, que ça soit en littérature ou au cinéma. Mais il y a quand même quelque chose. Il y a quand même aussi Anconina dedans, qui n'est pas un acteur que j'affectionne particulièrement, mais qui est extraordinaire dedans. Agnès Sorel aussi. Il y a une atmosphère années 80.
Le Hôtard, qui est très bon aussi dedans.
Non, c'est vraiment un bon film. Et puis après, bah, les autres Coluche, c'était marrant de les revoir au cinéma quand même.
J'ai revu Banzai.
Coluche classique, quoi.
En fait, je suis désolé, mais une comédie, c'est quand même fait pour être vu avec d'autres gens en salle, quoi. Et voir Banzai sur grand écran avec une copie 35 minutes qui était magnifique. Présentation très très bonne, justement. Une des seules qui était bonne pour moi de Valérie Mérès, qui a évoqué un peu des blagues de Coluche sur le tournage, des très très bonnes anecdotes. Et ben revoir Banzai sur grand écran, et ben, ça fait du bien. Et j'ai juste un petit bémol. J'en ai parlé à Laurent Gérard, qui est un fan de Jean-Yann et de Coluche. Pourquoi on n'a pas eu le droit à, je pense, le plus grand film de Coluche en termes de comédie, qui est 2 ans moins le quart avant Jésus-Christ.
Que j'ai toujours pas vu.
Il vient de sortir en Blu-ray, restauré 4K par Pathé. Donc les copies sont là. Pourquoi on n'a pas eu le droit à ce film-là ? Et j'adore, et j'aimerais bien, c'est un appel au Festival Lumière s'ils nous écoutent, pourquoi pas une rétro Jean-Yann dans les prochains temps, parce que Jean-Yann aussi, c'est un ponte de la comédie française.
Je crois que c'est peut-être un peu trop populaire pour être en programmation.
Il passe bien Banzai et les films de Pierre
Richard. Oui, mais en cas du festival, Festival Lumière et la Lumière, c'est pas la même programmation.
Mais je parle du festival.
Mais ça peut être très bonne, ça peut être une très bonne idée.
Parce qu'il nous reste très peu de temps, finalement, on va passer en revue. Bon, alors Franck Capra, on en a pas mal parlé la semaine dernière, donc c'est qu'on a dit que c'était un grand réalisateur. Voilà, on a évoqué un petit peu son parcours et les films. D'une époque, quoi, d'une certaine époque. Après, moi, pareil, c'est pas ce que je préfère, mais tu vois, il y a quand même une époque où c'est un personnage marquant du cinéma américain. Il y avait Capra, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre qu'on a pu oublier
McTiernan,
allez-y.
McTiernan qui est arrivé au Festival Lumière, il était là il y a donc un mois pour son hommage au Festival de Deauville à la Cinémathèque. Hein, donc, il a fait des masterclass, il a parlé dans beaucoup d'interviews, etc. Et on a eu la surprise de découvrir que McTiernan était présent. Justement pour présenter un Frank Capra,
l'homme de la rue,
qui est d'ailleurs, je pense, assez logique par rapport à John McTiernan. Et ils ont ajouté au dernier moment une séance de Piège de cristal qui est sortie il y a de ça 3 semaines à peu près, et il n'y avait aucune séance.
Et là, on a cru que Monsieur Lorenzo allait nous claquer dans les doigts, là, tellement c'était une émotion débordante.
Mais vous verrez,
comme moi, quand j'ai vu Laetitia Casta à l'ouverture, en fait, c'est un peu comparable. Quoi.
Ah, c'est. Ouais, elle est un peu plus sexy quand même. Mais, mais McT, quand même, je pense que c'est un futur grand classique. Je le pense vraiment. Je pense que c'est un homme qui a révolutionné la mise en scène. C'est un homme très, très simple. On l'a vu devant le Festival Lumière, à présenter les films. Tout le monde a eu le droit à un autographe, à une signature, etc., à une photo. Et voir McTiernan, en plus, après ce qui lui est arrivé, on va pas revenir dessus, mais le voir avec un sourire, avec une envie de cinéma, moi, ça me donne un peu espoir dans ses prochains films. D'ailleurs, j'ai échangé 2 mots avec lui et je lui ai dit, j'espère voir très vite votre prochain film, donc War Birds.
Avec Travolta.
Avec Travolta, et il m'a répondu quand même, et ça fait un peu peur aussi, il m'a répondu, moi aussi.
Bah oui, parce que ça va être compliqué pour lui.
Exactement, hein, mais... il le sait très bien, mais en tout cas, voir Die Hard, voir du film populaire à l'Institut Lumière et au Festival Lumière, c'est très très bien. Et
Piège du Cristal, c'est pas du populaire. Hein. Il faudra revoir la notion de cinéma populaire.
Bon, Hakim, dernier petit coup de cœur ou un dernier film dont tu as envie de parler.
Un coup de cœur et à la fois un coup de gueule, c'est toute la saga Musashi Miyamoto qui a été projetée durant tout le festival dans la petite salle du CNP, donc la petite salle qui est en dessous, qui était grosso modo la projection d'un Blu-ray. On sait que le film, la saga sort en décembre, juste avant Noël, en Blu-ray. C'est une très belle saga. Moi, j'avais vu les 3 premiers. Les 3 derniers, je ne les avais jamais vus, surtout qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des droits. Là, ils ressortent. Et c'est, je trouve, dommage que cette saga n'a pas eu le même droit que la saga Baby Cat, la dernière, qui avait été projetée dans la belle salle du Comédia. C'est vraiment une belle saga que je vous conseille. C'est un peu moins poétique, un peu moins hard et violent que Baby Cart, mais c'est tout aussi bien. Donc, si pour Noël, vous avez envie de vous faire une petite série de films de Shambara japonais, je vous conseille d'ores et déjà d'investir dans le coffret Musashi Miyamoto. 6 films, 6 Blu-ray, 50 euros. Voilà.
Alors, un dernier petit mot, quand même, une dernière petite question pour vous deux. C'était la nuit alien. Alors, oui. Comment c'était cette nuit alien? Vous avez fait des cauchemars un peu?
On a fait que le 2. Bah, moi, j'ai fait que le 2. Toi aussi?
Exactement.
La copie était magnifique.
Oui, elle paraît que même le 1 était magnifique.
Et même si je trouve que c'était un Blu-ray, mais bah oui, c'est déjà mieux que celle de Rambo. Entre parenthèses, c'était un DVD.
C'est un DVD Rambo.
C'était honteux, ça. Vous n'étiez pas là pour Rambo?
Non, on est parti juste
après. Problème technique et DVD, donc c'est assez honteux. Aïe. Mais la copie d'Aliens, effectivement, était magnifique. Et encore une fois, une belle ambiance. Les gens ont réagi pile le moment où il fallait réagir.
Et je me rends compte que malgré le fait qu'à la Tony Garnier, on est très mal assis, il y a quand même un très bel écran. Ouais. Je me demande si ce n'est pas le plus grand écran à Lyon.
Pour Bonnie and Clyde, c'était agréable aussi.
Or, pâté, Voix-en-Velin, faux écran IMAX. Je trouve que c'est quand même une belle salle, malgré le fait qu'on est très mal installé. Quand on voit des films longs de plus de 3 heures comme Bon été truand et Le bord du paradis, c'est un peu compliqué. Mais sinon, un film court, c'est plutôt pas mal. Et belle ambiance, belle insonorisation. Apparemment, le troisième était c'est une pellicule 35.
Oui, qui avait apparemment beaucoup tourné. J'aurais bien aimé rester, mais malheureusement, c'était 4 heures du matin après. Il faut quand même s'accrocher. Hein. Ouais.
Bon, bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour vos retours sur ce festival Lumière.
Et on annonce d'ores et déjà l'année prochaine, on lance les bilans.
2014.
Scorsese.
Scorsese, alors. Il y a alors, beaucoup pour de monsieur Vdaouche, monsieur Lorenzo, parfait, même Paris.
Scorsese, puisqu'il y a une exposition à la Cinémathèque qui commence le 15 octobre 2015.
En même temps.
D'accord. Moi, je mettrai aussi une petite pièce sur une rétrospective ou quelque chose. Jeanne Moreau, parce que c'était le souhait d'Almodovar. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont envie de, alors pas forcément en prix Lumière, mais qui aient une petite rétrospective ou quelque chose.
Une réalisatrice.
Je vois bien, en tout cas, un petit clin d'œil. Okay. Mais on se quitte. Et puis la troisième partie de ce Confluent Cinéma, ça sera aussi également un retour sur tout ce festival avec justement des interviews de Almodovar, de pas mal d'acteurs et actrices présentes au festival. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine pour parler un petit peu de l'actualité du cinéma. À très bientôt.
À très bientôt. Rome 90.7,
dernière partie de ce Confluence Cinéma, retour sur le festival Lumière 2014. Et du coup, on vous a concocté un petit reportage et on écoute tout de suite Bertrand Tavernier, Thierry Frémaux qui rendent hommage à la première invitée du festival, la grande actrice Faye Dunaway.
Attention, 1, 2, 3.
Nous déclarons Lumière 2014, la 6e édition du Festival de cinéma de Lyon, et nous comptons.
Quand je viens de voir le film de montage, moi j'avais voulu nommer que 4 ou 5 titres, et j'aurais dû en nommer 25. Quand on voit les films, quand on voit Chinatown, Barfly, enfin un nombre de films extraordinaires, d'une carrière tout à fait extraordinaire. C'est avec énormément de reconnaissance et de plaisir qu'on peut vous accueillir, qu'on doit vous accueillir ce soir.
You know, I've always been so happy to come here. And you, I wanted to say, my fans and my friends have supported me in this search all these years. And I thank you from the bottom of my heart. See, without you, I wouldn't be the same Faye Dunaway.
Et sans vous tous, je ne serais pas la même Faye Dunaway.
Nous retrouvons les acteurs Jean-Hugues Anglade et Charles Berling qui nous parlent du Festival Lumière 2014, bien sûr, mais aussi du réalisateur Claude Sautet, notamment pour le film Nelly et Monsieur Arnaud. Et Claude Sautet est également mis à l'honneur cette année. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous intéresse, que ce soit la programmation ou un petit peu ce festival?
Je crois qu'il y a une singularité dans ce festival qu'il n'y a pas ailleurs, dans les autres festivals. Il y a une sorte de passion pour le cinéma qui prime avant tout, une sorte de bouillonnement, d'envie, d'énergie, qui fait de du cinéma un événement vital, quoi, quelque chose qu'il essaye de transmettre et qu'il parvient très bien à transmettre, parce que je crois que c'est un festival dont les Lyonnais sont fiers, et ils ont raison, parce que c'est un festival extrêmement particulier et assez charismatique, voilà.
Et alors, dans les réalisateurs présents cette année, ou en tout cas programmés, comme Capra ou d'autres, il y en a particulièrement qui vous touchent?
J'aime beaucoup Almodovar, évidemment. Je n'ai pas pu véritablement regarder en détail tout ce qu'allait offrir le festival, mais je tiens à rappeler, à signaler qu'il y a aussi des colloques divers et variés autour des films et sur la musique de films. Je sais qu'il y en a un là aujourd'hui avec Michel Legrand, qu'il y a vraiment des opportunités de voir des films, et que c'est dans cet état d'esprit-là qu'est effectivement a été conçu ce festival, inviter évidemment des personnalités vivantes, mais en même temps aussi demander à ces personnalités de parler du cinéma qui les ont eux-mêmes inspirés. Et voilà, donc une sorte de chaîne du cinéma comme ça qui est magnifique. Voilà.
Alors Charles Berling, bonsoir.
Bonsoir.
On se retrouve au Festival Lumière. Vous venez présenter le film de Claude Sautet, Nelly et Monsieur Arnaud, dans lequel vous jouez le mari d'Emmanuel Béart, c'est ça, il me semble ?
Absolument, oui, tout à fait. J'ai eu la chance de tourner dans le dernier film de Claude Sautet. J'ai regretté de ne pas l'avoir connu avant, mais voilà. Donc j'étais très... Ça a été une rencontre très forte avec Claude Sautet.
Alors Richard Anconina, Agnès Soral et le fils de Coluche, Romain Colucci, sont venus présenter le film Ciao Pantin de Claude Berry dans le cadre d'un retour sur les grands films de Coluche.
Richard Anconina, bonsoir. Moi j'avais une petite question aussi sur le film. C'était vous, plus personnellement, comment vous avez appréhendé ce personnage-là finalement
J'ai suivi les directives d'un metteur en scène et d'un bouquin qui existait dans une histoire. J'ai fait mon travail d'acteur. Je savais que c'était quelque chose d'important, très important, puisque je jouais avec une personnalité très forte, Coluche, un phénomène social. Et donc j'ai appréhendé ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux, beaucoup d'application.
Et est-ce que dans votre carrière, c'est un personnage, un rôle qui vous a marqué ?
Comptez énormément. Il y avait avant Ciao Pantin et après Ciao Pantin.
Agnès Soral, bonjour.
Ah, bonjour.
Vous venez présenter le film Ciao Pantin.
Oui.
Du coup, qu'est-ce que ça vous fait ? C'est important un petit peu de se replonger dans...
Je suis surprise que ça ressorte en salle. Je suis très émue d'être avec les fils de Michel, que j'ai connu tout petit. D'ailleurs, Marius Colucci, je viens juste de tourner un film avec lui qui va sortir de Mocky qui s'appelle Calomnie. Donc je l'ai revu lors du tournage. Je suis émue, c'est il y a dans le montant. C'était en 83 qu'on l'a tourné. C'est sorti en 84, mais c'est en 83. Donc sur l'écran, j'ai un peu l'impression de voir ma fille, quoi.
Et alors, quel souvenir marquant de ce tournage ?
C'était à l'époque où on avait le temps de préparer des rôles, où moi j'ai dû m'infiltrer dans le monde de la punkitude qui était un peu méconnue, à part les couvertures de disques en Angleterre. On vivait la nuit pendant 2 mois et demi, on a tourné, j'étais dans la même loge que celle de Coluche. Parce qu'il avait envie que je sois dans sa loge. Donc on avait une loge, un camion-loge, ce qui à l'époque ne se faisait pas encore tellement, avec les potes qui passaient toute la nuit. Il y avait Coco, la fille de Miu Miu, qui cuisinait. C'était la fête non-stop pendant des mois, quoi. Moi, on m'avait demandé d'avoir l'air fatigué, donc à chaque fois, on me disait « Mais t'as l'air trop en forme, il faut que tu fasses la fête !» Sors, dors pas, voilà. Donc oui, des souvenirs, j'en ai beaucoup.
Alors c'est important du coup de venir présenter ce film Ciao Pantin.
On a tendance à penser que Coluche a fait beaucoup de choses, mais on accorde finalement assez peu d'importance à ses films, parfois par rapport à d'autres choses qu'il a pu faire. Et c'est la première fois qu'il y a un festival qui lui rend hommage et qui met à l'honneur le choix qu'il a fait de consacrer une grande partie de sa carrière exclusivement au cinéma. Et je crois qu'il a bien fait, parce qu'il a quand même, entre autres pour ce film, eu un César, ce qui prouve que c'était un choix judicieux, même si ce n'était pas forcément un choix facile. Et voilà, c'est ce qui nous fait plaisir, c'est qu'il y ait un hommage qui soit rendu à cette partie de son métier d'acteur qui avait tendance à passer inaperçu, je dirais.
L'acteur Vincent Pérez, membre fondateur du Festival Lumière, parle de Frank Capra, qui a également été mis à l'honneur cette année. Alors Vincent Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez donc présenter l'extravagant Mr. Deeds, film de Frank Capra. Pourquoi avoir fait ce choix?
J'ai choisi l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra.
Parce que Frank Capra était vraiment, pour moi, dans ma vie, très important. C'est vraiment le cinéma de Frank Capra a peut-être contribué à ce que j'ai envie de faire du cinéma. C'est un cinéma qui me bouleverse, qui m'a bouleversé. C'est un cinéma qui m'a bercé. Enfin, je veux dire, c'est Frank Capra. Et donc, tout naturellement, je suis allé vers ce film-là. Il y avait plein d'autres films que j'avais envie de présenter. Mais c'est vrai que c'est l'occasion de me replonger un petit peu dans l'univers de Capra, de faire des petites recherches pour pouvoir en parler un petit peu, me replonger. Alors il a ce livre formidable qui s'appelle Hollywood Story, qu'il a écrit, que je conseille à tout le monde. Alors vous avez plein d'anecdotes dans ce bouquin-là. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Frank Capra, il faut le dire. Voilà, parce que j'aime Frank Capra.
Et pour terminer ce petit reportage au cœur du Festival Lumière, on retrouve bien entendu Pedro Almodovar, qui était le prix Lumière 2014. Alors on écoute certaines de ses citations pendant le prix Lumière, à la conférence de presse et également lors de la soirée de clôture.
Faire un clin d'œil à l'un de ces films, qu'as-tu fait pour mériter tout ça?
Alors, c'est Thierry qui devrait répondre à cette question, mais c'est une question, c'est vrai, que je me suis posée moi-même et je n'ai pas trouvé de réponse véritablement, car je n'ai rien fait qui mérite autant de reconnaissance que celle que j'ai obtenue hier soir, autant d'émotion que celle que j'ai ressentie hier soir avec tous ces numéros sur scène, avec ces chansons, avec toutes les interventions qui ont été faites pendant cette cérémonie. Et la seule chose que je puisse faire, c'est finalement exprimer toute ma gratitude et toute l'émotion que j'ai pu ressentir. Voilà, pour répondre à votre question, en fait, je n'ai rien fait de spécial, véritablement. J'ai fait 19 films, certains très bons, d'autres peut-être moins bons, mais finalement j'ai fait ces films parce que je sentais que je devais les faire et je les ai faits comme je voulais les faire, de façon sans aucun compromis, de façon tout à fait indépendante. Et en quelque sorte, ces films, c'est comme des actes d'égoïsme finalement. Et puis c'est absolument merveilleux de voir que tant de gens se trouvent reflétés dans ces films, peuvent s'identifier à ces films. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que les films, c'est ma vie. Ma vie, c'est ça. C'est toute ma vie. Et que tant de gens puissent finalement établir cette complicité avec moi, qu'il y ait cette complicité avec les spectateurs, c'est un véritable miracle et je dois en être reconnaissant. Pour compléter la magnifique phrase d'Henri Langlois qu'on a entendue tout à l'heure, que le cinéma c'est le rêve et que le rêve en fait s'étend, s'exprime par le cinéma et vivant à travers le cinéma, et je crois qu'ici il y a une véritable machine à rêve, c'est bien celle de ce festival ici à Lyon.
It has not all been wasted. I cry, it's all I've tasted. It must be all I'm facing, 'cause still my heart be racing.